Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio.
Sud Radio, édition spéciale. Dans quelques instants, vous le vivrez à l'écoute de Sud Radio. Emmanuel Macron nous annoncera à tous les modalités du déconfinement. Qui sera déconfiné? Qui pourra recommencer à travailler? Quels magasins vont pouvoir rouvrir alors que la période des fêtes s'approche et qu'elle est capitale pour les travailleurs? Avec moi autour de cette table, Philippe Rossi, bonsoir à vous.
Et bonsoir, et oui, effectivement, alors on attend tous l'intervention d'Emmanuel Macron. Alors ce qui est à peu près sûr, c'est qu'effectivement les commerces devraient ouvrir ce week-end. Voilà, certains parlent du 27 ou du 28 novembre, vendredi ou samedi. C'est le week-end où en général les commerçants font le plus de chiffre d'affaires, hein, la fin du mois de novembre. Et quant aux restaurateurs, alors là j'ai l'impression qu'ils n'attendent rien de l'allocution d'Emmanuel Macron, puisqu'ils savent que malheureusement pour eux c'est cuit, j'ai envie de dire.
Effectivement, ce sont les bruits qui courent et déjà les indiscrétions qui sont déjà parues. A priori, difficile de rouvrir en France les restaurants voire les hôtels avant au moins janvier 2021. Effectivement, ce sont un peu probablement les laissés pour compte de ce déconfinement. Il faut le dire quand même, la seconde vague du coronavirus, elle a tendance à se tasser, de moins en moins de contaminations, de moins en moins de malades en réanimation dans les hôpitaux. Mais à côté de ça, on vient de l'apprendre aussi, la France vient de franchir ce seuil dramatique de 50 000 morts, 50 000 victimes depuis le début de l'épidémie, 50 000 morts du coronavirus en France, et c'est du jamais vu, en tout cas depuis très longtemps.
C'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a 4 semaines, lorsqu'il avait annoncé le confinement, Emmanuel Macron s'était donné pour objectif des 5 000 contaminations par jour, hein, moins de 5 000. Depuis quelques jours, on y est à ces 5 000 contaminations par jour. Et pourtant, est-ce qu'on va vers un déconfinement? On parle plutôt d'un allègement du confinement. Emmanuel Macron ne veut pas prendre de risques, ne veut pas déconfiner pour avoir une troisième vague en février-mars. C'est ce que prévoient les scientifiques, une probable troisième vague si on déconfine trop tôt. Hein.
On a voulu tout faire pour éviter un deuxième confinement. On n'a pas pu y couper. On va tout faire pour éviter un troisième confinement, justement. Alors, il y a encore beaucoup de secteurs en France et beaucoup de travailleurs français qui ne savent pas ce qu'ils pourront faire. Exemple, parmi tant d'autres, notamment dans les Pyrénées, dans les Alpes, les stations de ski pourront-elles rouvrir? A priori, elles ne le seront même pas ce soir. Elles
ne sauront pas si elles alors ça, ce sera dans une dizaine de jours, mais les directeurs de stations de ski ont pris les devants et ont recruté des saisonniers, ont mis en marche les canons à neige pour...
pour écouter les annonces du président de la République, Emmanuel Macron, en direct sur Sud Radio dans quelques instants, qui va nous annoncer qui aura le droit et dans quelle mesure de travailler en France.
Mes chers compatriotes, quand le 28 octobre dernier, je me suis adressé à vous, je m'étais engagé à vous rendre compte de l'évolution de l'épidémie et des décisions qui pouvaient être prises en conséquence. Un mois plus tard, où en sommes-nous? Le nombre de cas positifs journaliers à la Covid-19 a fortement reculé. Il a été supérieur à 60 000. Il s'est établi la semaine dernière à 20 000 cas par jour en moyenne. Après avoir atteint 33 500 patients hospitalisés le 16 novembre, soit plus que lors de la première vague, nous avons aussi commencé une lente décrue. Le nombre de personnes en réanimation du fait de la Covid-19 est passé de 4 900 le 16 novembre à 4 300 aujourd'hui. De ces données, il ressort que le pic de la seconde vague de l'épidémie est passé. Lors de ma dernière intervention, nous redoutions des chiffres bien pires encore, et nous les avons évités. D'une part, car nos efforts, vos efforts, ont payé. L'esprit civique dont vous avez fait preuve a été efficace. Et d'autre part, parce que nous avons appris à mieux prendre en charge et traiter les patients atteints pour éviter certaines formes graves qui auraient frappé nos concitoyens et pesé encore plus sur nos services de réanimation. Je veux ici saluer le dévouement des soignants qui, en ville comme à l'hôpital, ont tenu, coopéré, innové, malgré la fatigue et la lassitude. Je salue tous les professionnels, les associatifs, les bénévoles qui ont aussi ici aidé. C'est tous ensemble que nous avons obtenu ces résultats. C'est tous ensemble que nous avons sauvé des vies. Si nous avons réussi à ralentir la circulation du virus, nous ne devons pas perdre de vue nos autres préoccupations sanitaires. Il nous faut d'abord continuer de traiter, parfois de reprendre les soins pour les autres patients. Il nous faut aussi nous préparer à faire face aux conséquences de long terme liées au virus. Des scientifiques et des experts travaillent d'ores et déjà avec l'assurance maladie à un suivi de long terme des malades de la Covid-19. Je demande aussi au gouvernement de préparer une stratégie pour prendre en compte les conséquences psychologiques de la pandémie et des différents confinements. Je sais en particulier combien les personnes âgées, à domicile comme dans les maisons de retraite, combien les personnes en situation de handicap ont souffert et souffrent encore de leur isolement et combien nous devons les accompagner dans la durée. Il nous faut enfin redoubler de vigilance pour prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux enfants durant cette période de confinement. Certes donc, nous avons freiné la circulation du virus. Mais il demeure très présent en France comme dans tout l'hémisphère nord, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie, où il circule encore très fortement. Aujourd'hui, nous avons atteint 50 000 décès dus à l'épidémie. Et si la situation s'améliore globalement dans l'Hexagone et dans nos Outre-mer, dans certaines régions, elle demeure très préoccupante. Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour atteindre les objectifs que j'avais fixés qui permettent de contrôler l'épidémie et donc de stabiliser le nombre de contaminations autour de 5000 personnes par jour et d'avoir entre 2500 à 3000 personnes en lit de réanimation. Aussi, je m'adresse à vous ce soir pour vous dire qu'il nous faut poursuivre nos efforts. Quels sont nos objectifs ? Sauver des vies au maximum, maîtriser l'épidémie, tout en prenant en compte à chaque fois, au mieux, les autres malades, l'isolement de certains, notre économie et ce qui fait la vie. L'éducation, la culture, le sport, notre art de vivre. Adapter la réponse au territoire, en particulier pour nos Outre-mer, où des plans spécifiques par territoire seront prévus. Pour ce faire, il nous faut continuer pendant plusieurs semaines à éviter nombre d'activités dans des lieux clos qui accélèrent la diffusion du virus et limiter au maximum les rassemblements. À partir de là, je veux pouvoir ce soir nous fixer un cap, un calendrier et esquisser des perspectives. Une nouvelle étape s'ouvrira à partir du samedi 28 novembre matin. Il y a d'abord ce qui ne va pas changer. Le confinement adapté et donc le système de l'attestation resteront en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats. Il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires. Mais dès samedi prochain matin, plusieurs changements seront réalité. D'abord, les déplacements pour motifs de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées. Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes. Enfin, et je sais combien l'attente est grande et combien cela participe à notre quotidien, à la vie de nos centres-villes, de nos centres-bourgs, enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Les commerces et les services pourront donc rouvrir, selon ces règles, jusqu'à 21h au plus tard. Les librairies, les disquaires, les bibliothèques et archives pourront aussi rouvrir dans ces conditions. La deuxième étape, ce sera le 15 décembre. Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation, nous pourrons alors franchir un nouveau cap. Alors, le confinement pourra être levé. Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille. Il faudra au maximum limiter les déplacements inutiles, souffler et se retrouver, oui, mais j'en appelle à votre sens des responsabilités, il ne s'agira pas à coup sûr de vacances de Noël comme les autres. Les activités extrascolaires en salle, pour l'accueil des enfants durant les fêtes, seront à nouveau autorisées avec des règles strictes. Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité, toujours dans le cadre des protocoles sanitaires qui ont été négociés. Et un système d'eurodatage permettra d'organiser les représentations en fin de journée. Je veux ici dire combien je remercie et combien nous soutenons tous les acteurs de la culture, à qui, je le sais, nous avons tant demandé, mais qui ont tenu, qui ont créé, innové, su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile. Nous avons besoin d'eux. Nos concitoyens ont besoin, en effet, de pouvoir avoir une vie, si je puis dire, et des activités au maximum, mais la culture est essentielle à notre vie de citoyenne et de citoyen libre. Des contraintes fortes demeureront toutefois durant cette période. Les grands rassemblements seront interdits, ainsi que tous les événements festifs dans les salles allouées. Tous les lieux qui, comme les parcs d'attractions, les parcs d'exposition, sont susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes venant de régions différentes, resteront fermés. De même, les bars, les restaurants, les discothèques ne pourront rouvrir leurs portes, malheureusement, durant cette période. Concernant les stations de sport d'hiver, une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels. Les décisions seront finalisées très prochainement, mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes et bien préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions. Nous nous coordonnerons sur ce point avec nos voisins européens. La logique de toutes ces décisions est la même. Au maximum, limiter toutes les activités qui multiplient les rassemblements, conduisent les gens à se rassembler sans protection dans des lieux clos et permettre progressivement de rouvrir les activités où l'on peut se protéger et où les distances, où les gestes barrières sont possibles. Partout sur le territoire, durant cette période, donc à partir du 15 décembre, un couvre-feu de 21 h à 7 h du matin sera mis en place. Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre pour partager ces moments en famille, mais les rassemblements sur voie publique ne seront pas tolérés. Durant toute cette période, vous aurez un rôle central pour notre réussite collective. Les réunions privées doivent au maximum limiter le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce à un même moment, et nous devons tous veiller à respecter les règles sanitaires entre nous pour protéger chacun. L'étape suivante sera pour le 20 janvier. En effet, à cette date, nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année. Vous le savez, il nous faut toujours une quinzaine de jours pour voir exactement les conséquences de la modification de nos comportements. Et donc, c'est autour de 20 janvier que nous pourrons alors prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture. Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé. Les lycées, qui bien souvent aujourd'hui fonctionnent par demi-classe, pourront à ce moment-là être pleinement rouverts avec la totalité des élèves présents durant les cours. 15 jours plus tard, ce sont les universités qui pourront reprendre les cours avec là aussi une présence physique de tous les élèves. Nous ferons ainsi le point tous les 15 jours sur la situation sanitaire et déciderons alors si nous pouvons prendre des mesures supplémentaires d'ouverture ou si au contraire il nous faut revenir en arrière pour prévenir tout nouvel emballement de la propagation du virus. Car nous devons tout faire pour éviter une troisième vague, tout faire pour éviter un troisième confinement. Pour cela, et durant les mois qui viennent, nous avons trois outils entre nos mains. Le premier, c'est l'esprit de responsabilité de tous. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas passifs durant cette crise. Nous avons tous un rôle à jouer. Durant les congés de fin d'année, nous allons tous retrouver nos proches. Nous nous en réjouissons évidemment, et tous dans ces moments-là. Nous sommes tentés de baisser la garde, de relâcher la pression. Mais si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance. Protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables. Portons le masque, y compris à la maison lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous. Veillons à ne pas être trop nombreux à table. Appliquons scrupuleusement tous les gestes barrières. Se laver les mains, respecter les distances, aérer toutes les heures les pièces. C'est du bon sens et de l'exigence, mais chacun de nous a entre ses mains une partie de la solution. Notre second outil, c'est la stratégie tester, alerter, protéger, soigner, que nous sommes en train de réorganiser pour la rendre beaucoup plus efficace. C'est à mes yeux l'outil le plus important dans les semaines et les mois qui viennent pour contrôler le virus. Tester. Nous sommes, comme vous le savez, l'un des pays européens qui testent le plus. Mais début janvier, aucun test ne devra mettre plus de 24 heures entre la demande de test et son résultat. Ce sera vrai des tests PCR que nous continuerons de déployer. Quant aux tests antigéniques, qui permettent d'obtenir un résultat en moins de 30 minutes, ils seront utilisés massivement, en particulier pour les personnes qui ont des symptômes ou lorsqu'il faut dépister rapidement, par exemple dans une école ou dans une maison de retraite. En la matière, les innovations continuent de se poursuivre et permettront, je l'espère, de faire encore mieux et plus simplement. Alerter. Nous devons, dans les prochaines semaines, améliorer notre organisation afin de casser beaucoup plus rapidement les chaînes de contamination à la racine en identifiant plus complètement l'ensemble de ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui ont été exposés à quelqu'un qui a la Covid-19. L'application Tous Anti-Covid, que vous êtes près de 10 millions à avoir téléchargée, et il faut continuer, est essentielle pour les identifier. Utilisons-la au maximum dans les commerces et lorsqu'ils ouvriront, dans les restaurants, dans les lieux de culture, partout où nous nous rassemblons. Elle est une aide précieuse pour appuyer l'assurance maladie. D'ores et déjà, plus de 10 000 personnes appellent chaque jour les cas contacts et nous allons continuer de former, d'engager de nouveaux volontaires pour encore nous améliorer. Protéger. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoit les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Un vrai débat démocratique doit se tenir. Mais si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique. Cette nouvelle stratégie associera, outre les services de l'État, les maires et leurs services, comme les associations concernées. Soigner, traiter. Beaucoup de progrès ont été faits et nous pouvons nous féliciter de la mobilisation de nos soignants. Nous devons continuer d'améliorer la prise en charge et le traitement dès le diagnostic en médecine de ville et à l'hôpital pour réduire encore davantage les formes graves. Le troisième outil, enfin, qui nous permettra de faire face au virus durant les prochaines semaines et les prochains mois, et pour nous tous une formidable lueur d'espoir, c'est le vaccin. Notre stratégie repose sur plusieurs vaccins. Certains seront disponibles dès la fin décembre, début janvier, et une seconde génération arrivera au printemps. Notre plan en la matière est clair. D'abord, sécuriser le nombre de doses. Nous l'avons fait avec l'Union européenne et la Commission, en achetant auprès des producteurs, en nous mettant en capacité d'en produire au maximum en Europe, et le nombre de doses étant réparti en fonction de la population de chaque État membre. Les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Ensuite, garantir la sécurité sanitaire. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Et je tiens à ce que celle-ci se fasse dans un cadre totalement transparent. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Enfin, nous allons organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes. La Haute Autorité de Santé présentera dès les jours à venir ses recommandations. Les autorités sanitaires, avec l'État, les collectivités locales définiront les modalités pratiques du déploiement des vaccins, avec les hôpitaux, les maisons de retraite et l'ensemble des médecins de ville. Nous commencerons vraisemblablement dès fin décembre, début janvier, sous réserve des validations par les autorités sanitaires, par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées. Des étapes successives seront présentées afin progressivement de permettre la vaccination du plus grand nombre. Vous le voyez, le retour à la normale ne sera donc pas pour demain, mais nous pouvons, j'en ai la conviction, maîtriser l'épidémie dans la durée. Nous avons les moyens, collectivement, de réussir à maîtriser puis vaincre ce virus. Chacun a un rôle à jouer, chacun a une responsabilité à tenir. Nous avons dans le même temps à faire face à une crise économique et sociale inédite. Elle est la conséquence du premier confinement et de ce que nous sommes en train de vivre. Je vous l'annonçais dès le mois de juillet dernier. La crise va vraisemblablement encore s'aggraver, mais nous avons une réponse à apporter. Nous l'avons fait dès le début. En effet, depuis le premier jour, nous agissons. Pour les salariés, avec le chômage partiel, pour les plus précaires, avec des aides ponctuelles et la prolongation des droits, en particulier pour les chômeurs, pour les entreprises et les indépendants, avec notamment les prêts garantis par l'État, les annulations et reports de charges, le fonds de solidarité. Quoi qu'il en coûte, n'a pas seulement été une formule, mais bien des actes et une réalité. Nous avons renforcé cette réponse lors de la deuxième vague. Et je veux ici remercier le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement qui, en concertant, en travaillant, a permis de compléter les choses. De nouvelles aides sociales ont été décidées. 150 euros seront versés en fin de semaine aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique, aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 25 ans non étudiants touchant les allocations logement. 100 euros par enfant seront versés pour les familles bénéficiant des APL. Au total, 4 millions de familles et 1 300 000 jeunes seront aidés. Les aides aux entreprises ont été significativement renforcées en décalant les échéances des prêts garantis par l'État, en exonérant à nouveau des charges, en augmentant à 10 000 euros le fonds de solidarité, notamment pour ceux à qui, indépendants, commerçants, entreprises, nous avons demandé, j'en ai conscience, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, alors même qu'ils craignaient de perdre le fruit d'une vie de travail. Ils sont tous essentiels, tous, à la vie de notre nation. Dès les prochains jours, nous allons encore compléter ces aides. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement, se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019, si cette option est préférable pour eux aux 10 000 euros du fonds de solidarité. Je sais les sacrifices que nous avons demandés à beaucoup de ces entrepreneurs. Je sais combien nos restaurateurs, les entrepreneurs que nous avons fermés administrativement, veulent surtout travailler. Ils ne veulent pas être aidés. Ils veulent pouvoir continuer à se lever tôt le matin et à faire ce qui est leur travail et en même temps leur passion. J'ai conscience du sacrifice que nous leur demandons. C'est pourquoi nous allons apporter cette aide encore exceptionnelle jusqu'au 20 janvier prochain, je l'espère, date à laquelle nous pourrons les réouvrir. Les saisonniers, les extras qui n'ont plus d'engagement depuis des mois, les précaires qui travaillent les années précédentes mais ne retrouvent plus d'emploi, les jeunes qui n'arrivent à trouver ni emploi étudiant ni premier emploi, trouvons une réponse exceptionnelle à leur situation. Le gouvernement présentera cette réponse dans les prochains jours. Le plan Un jeune, une solution fera l'objet de moyens accrus et j'invite tous les jeunes à se renseigner sur la plateforme prévue à cet effet. Toutes ces décisions sont le fruit de larges consultations menées par le Premier ministre et son gouvernement avec les partenaires sociaux, les élus locaux, les forces politiques. Elles sont éclairées par la science. Il y a certes beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas, mais j'assume pleinement les décisions que je vous expose aujourd'hui. Et j'assume de les prendre pour vous protéger au maximum dans ce contexte exceptionnel. Mes chers compatriotes, j'ai conscience de vous avoir donné beaucoup de détails ce soir, Mais je pense que c'était nécessaire pour vous permettre de vous figurer dans les prochaines semaines comment nous allons nous organiser si chacun nous tenons notre rôle. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Et il nous faut garder en la matière beaucoup d'humilité, ce virus nous l'a appris. Mais je ferai tout ce que je peux pour me battre à vos côtés, pour vous protéger et réussir à maîtriser cette épidémie. Cette épreuve qui dure depuis bientôt un an est difficile pour chacun de nous. Et nous ne sommes pas au bout. Et je ne veux pas que nous nous laissions aller ni à la résignation, ni à la colère. Je suis optimiste, car toute crise comporte une part de progrès, une part d'espérance. Regardez comme ces 9 derniers mois nous ont permis aussi de réussir ce que longtemps nous avions pensé impossible. Nous avons su rendre notre État plus efficace pour faire face à l'urgence sanitaire comme économique. Nous avons collectivement transformé l'hôpital, notre système de soins. Nous nous sommes appuyés sur le numérique pour rapprocher les commerçants des citoyens dans les territoires. Pour continuer à travailler, à apprendre, à soigner, nous avons fait preuve d'une capacité d'innovation, d'un sens de l'inventivité qui seront décisifs pour construire le futur et affronter les crises qui viennent. Nous avons été solidaires comme jamais. Nous avons aussi identifié certaines de nos faiblesses. Une organisation imparfaite, trop de bureaucratie, parfois un sens des responsabilités inégal. Un manque de souveraineté, parfois aussi, pour certaines de nos productions. Dans les prochains mois, il nous faudra consolider ces forces que parfois nous ne soupçonnions pas et corriger ces vulnérabilités que parfois nous ne voulions pas voir. Pour ce faire, nous devrons nous en remettre au savoir et à la science. Ne jamais céder au complotisme, à l'obscurantisme, au relativisme. Nous devrons continuer à innover, à créer, à entreprendre. C'est la force de l'esprit français. Nous aurons à redresser notre économie tout à la fois en investissant, en travaillant et en étant solidaires. À ce titre, le plan de relance de 100 milliards d'euros permet de préparer l'avenir de notre économie en créant des emplois dans des secteurs nouveaux et en les développant. Mais pour les semaines à venir, nous devons chacune, chacun, à la nation, l'esprit de responsabilité. Nous nous devons, les uns aux autres, aussi, beaucoup de bienveillance. Les esprits sont parfois fatigués et les débats s'échauffent. Et dans cette période, nous ne devons pas nous laisser nous emporter. Tenons-nous ensemble, autour de nos valeurs, autour de notre histoire, dans cet attachement à notre démocratie, à notre humanisme qui demeure aujourd'hui comme hier, nos plus sûrs atouts. Alors, nous pourrons inventer un nouvel avenir français. Mes chers compatriotes, une nouvelle fois, nous serons, j'en ai la certitude, au rendez-vous des défis des semaines et des mois qui viennent. Notre génération a ensemble à vaincre cette épidémie, à affronter le terrorisme, à affronter la crise climatique et celle des inégalités. Aujourd'hui, nous tenons ensemble. Demain, nous vaincrons ensemble. Vive la République, vive la France.
Et voilà, vous l'entendiez.
Voilà pour cette allocution qui a duré.
Vous l'entendiez justement sur Sud Radio, édition spéciale, le président de la République qui nous annonce un déconfinement progressif. Justement, première étape, Philippe Rossi, eh bien, c'est samedi matin, samedi 28 novembre.
Eh oui, voilà, 28 novembre, réouverture de tout, hein, il a bien dit, de tous les commerces avec un protocole sanitaire strict qui a été négocié, voilà, avec tous les secteurs à partir du 28 novembre. Ça, c'est la première étape. Les attestations resteront toujours en vigueur, le confinement continue, pas de réunion et de rassemblement. Une deuxième étape autour du 15 décembre, si jamais on est à 2500 à 3000 personnes en réanimation, donc c'est-à-dire que ça a baissé. Le confinement sera donc levé, pas d'attestation, on pourra circuler librement, passer Noël en famille. Et puis la troisième étape, ce sera le 20 janvier. Jusque-là, les restaurants n'ont pas réouvert.
Non.
On peut imaginer une réouverture des salles de sport et des salles de restaurant, pas avant donc le 20 janvier.
Pas avant le 20 janvier. On en parlera, édition spéciale sur Sud Radio avec les vraies voix, dans quelques instants avec le chef toulousain Michel Sarran, mais nous sommes aussi avec Philippe Bilger, bien sûr, comme pour toute édition spéciale des vraies voix. Philippe Bilger, on espérait un déconfinement, c'est pas pour tout de suite. Hein.
Non, mais il me semble que le président a respecté la promesse. Il n'a pas parlé de déconfinement, mais d'allègement des contraintes. Au fond, d'abord, je ne suis pas un citoyen qui trouve que tout est facile de la part d'un pouvoir confronté à un tel fléau. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai senti un pragmatisme bien plus lucidement explicatif qu'à l'ordinaire. Je n'ai pas eu le sentiment d'un empirisme qui était dépassé par des événements, mais qui cherchait à les organiser d'une certaine manière. Vous avez vous-même tous les deux rappelé les dates fondamentales. Alors, bien sûr, certains auraient espéré davantage, mais il semble que la tonalité générale de discours respecte les conciliations entre la prudence sanitaire, les avancées sociales, les aides nécessaires. Et il me semble que le président nous a fait un discours, encore une fois un peu trop long, qui ressemblait d'une certaine manière à celui qu'il pourra faire le 31 décembre au soir. Par moments, j'avais le sentiment que si je mettais à part le fléau et l'éradication de celui-ci, on avait quelque chose qui nous projetait vraiment de manière très pleine et très intense vers 2021. Donc, la seule chose que, et je termine, la seule chose que, à nouveau, je regrette, c'est qu'il abuse un petit peu des leçons de l'amertume. Je veux dire, il nous l'a déjà dit en indiquant qu'il fallait faire de ses malheurs une richesse. Je ne suis pas sûr qu'à la longue, les Français préféreraient avoir la richesse sans le malheur.
Le message continuera à passer, mais il sera de moins en moins reçu. Ça, c'est possible. En tout cas, restez avec nous, Philippe Bilger et Philippe Rossi. Édition spéciale sur Sud Radio jusqu'à 21h. On se retrouve dans quelques instants avec la France qui va rouvrir, celle qui va rouvrir très bientôt. On sera notamment avec la responsable d'une boutique d'habillement qui a hâte de rouvrir. Elle est à Bordeaux. On sera aussi avec la France qui n'est pas près de rouvrir, malheureusement pour elle. Rendez-vous sur Sud Radio dans quelques instants avec le chef Michel Sarran pour les restaurateurs. Ce ne sera pas avant le 20 décembre. À tout de suite.
Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio.
Édition spéciale sur Sud Radio. Emmanuel Macron qui nous annonce un déconfinement très progressif. Prochaine étape, ce samedi matin. Les commerces pourront rouvrir jusqu'à 21h avec un protocole sanitaire très strict. On va en parler dans quelques instants avec une professionnelle de ces nombreuses boutiques, de ces nombreux magasins qui espèrent rouvrir pour cette période cruciale des fêtes. Avec moi autour de cette table sur Sud Radio, Philippe Rossi et Philippe Bilger toujours là. Avec moi également en direct sur Sud Radio, le chef Michel Sarran, qu'on ne présente plus. Bonsoir à vous, Michel Sarran.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le chef du restaurant 2 étoiles au Michelin gastronomique Michel Sarran à Toulouse. Malheureusement pour vous et pour tous vos collègues, qu'ils soient chefs étoilés ou pas d'ailleurs, eh bien, la seule date que vous pouvez entrevoir à ce stade, c'est le 20 janvier et encore peut-être si vous pouvez rouvrir.
Oui, c'est lourd, c'est long, c'est beaucoup d'interrogations, toujours cette attente, c'est une perspective de fête de Noël terrible pour toute la profession. On voit que certains pourront s'amuser, je suis pas sûr que tous les restaurateurs auront le cœur à ça. Alors derrière, il y a des promesses et des engagements du président de prendre en charge 20% du chiffre d'affaires.
C'est ça.
Il va falloir que ce soit éclairci, que ce soit vraiment qu'on sache si c'est sur toute la période du confinement ou juste pour le mois de janvier. Enfin, on a encore plein d'interrogations. Alors, une chose est sûre, c'est que comme les lieux de culte pourront ouvrir, on pourra toujours aller prier pour espérer. Mais c'est vrai qu'on est quand même très, très inquiet.
Effectivement, et c'est une période cruciale. Ça représente quoi sur une année normale pour un restaurant comme le vôtre, Michel Sarran, ce mois de décembre, ce mois de novembre et ce mois de janvier, du coup, d'habitude?
Alors, le mois de janvier est toujours un mois compliqué. C'est pour ça qu'une reprise en janvier, ce n'est pas la meilleure période. Mais la période des fêtes de fin d'année, pour moi, mais pour d'autres restaurateurs, c'est énorme. C'est un chiffre d'affaires conséquent. Donc, c'est vrai que de ne pas pouvoir profiter de ce moment de fête, ça va être un manque à gagner terrible. Sachant qu'on a déjà fermé, on aura fermé pratiquement 6 mois. Et vous imaginez dans une entreprise quand il y a 6 mois de chiffre d'affaires qui saute, c'est colossal.
C'est
pour beaucoup de toute façon, c'est. C'est sûr que c'est trop tard.
Et vous pensez qu'un certain nombre de vos collègues ne pourront pas rouvrir? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron avait le choix, Michel Sarran?
Moi, ce soir, avant tout, j'ai entendu un ministre de la Santé parler. J'aurais aimé que les engagements pour l'aspect économique soient plus forts, parce que bien sûr que l'aspect sanitaire, j'ai pas la légitimité d'en parler. La crise est là, cette crise sanitaire, elle est terrible, elle frappe tout le monde, tous les foyers. Je ne vais pas en parler davantage. Mais il y a une vraie crise qui va découdre aussi de cet événement inattendu. Et cette crise économique, on la prend de plein fouet. Moi, ça fait 25 ans que j'ai travaillé pour construire mon univers, ma maison, et que je le fais avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup de travail aussi. Et de le voir réduit à néant par une crise dont j'attribue la responsabilité à personne et pas au gouvernement. Mais c'est quand même très dur à encaisser, de se dire que ben, peut-être, et qu'il y a, ça j'en suis sûr, tout un tas de maisons qui vont fermer, qui ne pourront pas rouvrir et qui seront donc, enfin, pour qui la vie est brisée, c'est terrible aussi. C'est une autre maladie, si j'ose dire. Mais c'est vrai que psychologiquement, mais c'est considérable. C'est un anéantissement complet.
Jusqu'au 20 janvier, en tout cas, c'est une date et qui est optionnelle, peut-être. C'est-à-dire que ça dépendra, justement, vous avez bien dit, le peut-être. On est toujours aussi avec Philippe Bilger, Emmanuel Macron l'a annoncé, à partir du 15 décembre, c'est le monde de la culture qui pourra peut-être en partie respirer. Les restaurateurs, eux, en tout cas, c'est pas avant le 20 janvier, ce qui sera très difficile, Philippe Bilger.
J'aime beaucoup le ton de Michel Sarron qui, en dépit de sa déception, cherche à comprendre les propositions présidentielles. Mais si vous le permettez, j'aurais voulu lui demander,
allez-y,
à votre avis, vous percevez ce discours à l'égard des restaurants comme une sorte d'injustice, ou vous pensez que le pouvoir n'avait pas d'autre choix à l'égard des restaurants ?
Je n'en ai aucune idée. Ce que je vois, c'est que, écoutez, en ce moment, je suis en tournage, je prends l'avion régulièrement, je vois les foules amassées dans les salles d'attente avant d'embarquer, je vois toute cette proximité qu'il y a, et on peut pas parler de distanciation. Alors, bien sûr, il y a des masques, mais j'ai du mal à comprendre tout ça. Et c'est vrai qu'on a focalisé sur nos métiers, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi l'événementiel, le culturel.
Tout à fait.
Et est-ce que nous sommes vraiment, on a l'impression que nous sommes responsables quelque part, et ça c'est inacceptable pour nous. Après, je n'ai pas, une fois de plus, la légitimité pour parler de tout ça. La seule chose que je peux faire, c'est le constat de la profession aujourd'hui qui est aux abois. Et on a vraiment besoin d'avoir des signaux forts envoyés pour le gouvernement et des engagements fermes pour la survie économique de notre secteur.
Et c'est ça. Et les annonces qui ont été données par Emmanuel Macron, Michel Sarron ce soir, c'est une aide, effectivement, du fonds de solidarité. Ça, c'est pour les gérants, c'est pas le chômage partiel pour les salariés. Le fonds de solidarité, ça représenterait une aide de 20% du chiffre d'affaires sur la même période en 2019 pour aider ceux qui sont fermés. Il y a une aide pour les très petites entreprises aussi de 10 000 euros qui serait, d'après Emmanuel Macron, avantageuse pour les très petites entreprises. Merci et bon courage, Michel Sarron, en tout cas. Et effectivement, je pense que bon, la France est le pays de la gastronomie, c'est aussi le pays de l'exception culturelle, le monde de la culture. Lui, il pourra respirer à partir du 15 décembre si tout va bien. Ce sera assez difficile. Merci, Michel Sarron, d'être intervenu sur Sud Radio. Trois plans, on l'a dit, hein, Philippe Bilger et Philippe Rossi. Trois catégories de personnes. Dans un instant, ce sera sur Sud Radio, les commerces qui rouvrent dès samedi. En revanche, les cinémas, la culture, cher à Philippe Bilger, les théâtres aussi,
enfin,
ça, ce sera
pas
peut-être...
Toujours.
Pas toujours, mais souvent, ça, ce sera peut-être le 15 décembre, si les chiffres sont bons. Ça fait un échéancier qui va être très long à égrainer, Philippe Rossi.
Oui, c'est-à-dire, on a encore 3 semaines devant nous, donc on l'a bien compris, c'est encore 3 semaines de confinement. Hein. Ce sont juste
quasiment
les commerces qui rouvrent, c'est 3 semaines de confinement. Mais là encore, comme le disait Michel Sarron, ce qui est très dur, c'est que tout est optionnel. C'est-à-dire qu'on a une petite perspective, si les chiffres sont bons, les restaurateurs peuvent ouvrir le 20 janvier. Si les chiffres sont bons, l'objectif des 2500 à 3000 personnes en réanimation, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si c'est faisable en 15 jours. Voilà, objectif sauver des vies, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron et c'est ce qu'on va tenter de faire.
Philippe Bilger.
Et si je peux ajouter un petit quelque chose,
oui.
J'ai été frappé à la fin du discours, finalement, de le voir évoquer, les tester, tracer, isoler, soigner, qui étaient réclamés depuis le début.
Absolument.
Par certains critiques du pouvoir et de sa, oui. la gestion.
Mais est-ce qu'on
sanitaire.
Va être capable de le faire ?
C'est ça. On en parlera justement avec un représentant du syndicat des médecins libéraux dans quelques minutes. Philippe Bilger, effectivement, Emmanuel Macron qui annonce dès le mois de janvier, enfin, si j'ose dire, des dépistages du coronavirus qui donneront un résultat d'ici 24 heures. C'est sûr que c'est beaucoup plus pratique. Et à ce moment-là, d'ailleurs, les cas positifs seront beaucoup plus surveillés pour éviter qu'ils ne continuent à propager le virus, même malgré eux. Alors, je le disais, à partir de samedi, plusieurs choses vont changer. Vous aurez le droit, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, de vous promener,
oui,
dans un rayon de 20 km autour de chez vous et pendant 3 heures. Aujourd'hui, c'est 1 km et pendant 1 heure. Et puis surtout, vous aurez le droit d'entrer dans les commerces. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Bernadette Hirsch. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes gérante d'une boutique Mademoiselle H au Bouscat, présidente pour la région Nouvelle-Aquitaine de la Fédération nationale de l'habillement dans votre région. Bon, vous, au moins, vous avez une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'à partir de samedi, vous ouvrez jusqu'à 21h.
Oui, alors jusqu'à 21h, peut-être pas, on a le droit, mais
voilà.
Après, normalement, les boutiques ferment à 19h, donc après, ça va dépendre des salariés. Enfin, bon, c'est celui qui est tout seul dans sa boutique peut gérer comme il veut. Après, est-ce qu'il y aura vraiment du monde entre 19h et 21h, ça reste à voir. Donc, on est content de pouvoir ouvrir, mais tout ça va se mettre en place.
Est-ce que vous êtes prête
dans la semaine prochaine?
Est-ce que vous êtes prête déjà à rouvrir?
Oui, bien sûr. Oui.
Vous attendez à beaucoup de visites. Est-ce que vous avez eu des messages de vos clients qui ne pouvaient pas venir, de vos clientes?
Bah, écoutez, on a, y a quand même quelques commerçants qui ont réussi à travailler en click and collect,
ouais.
qui donc nous a permis de garder un lien avec nos clients. Après, oui, je pense que les gens vont jouer le jeu de retourner en boutique, mais bon, on va voir ce que ça donne en fait. Hein. On peut pas préjuger. On a bien compris qu'il fallait quand même rester prudent.
Oui. Très prudent.
Bernadette Hirsch, le président Emmanuel Macron a évoqué un protocole sanitaire qui a été apparemment négocié avec tous les secteurs. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel sera le protocole sanitaire qui sera mis en place à partir de samedi, donc jour de la réouverture?
Bah écoutez, en ce qui concerne les commerces d'habillement, pendant au premier déconfinement, on avait déjà, la FNH avait édité un guide avec des mesures obligatoires et des mesures largement recommandées. Donc nous, de notre côté, c'était déjà très cadré et les commerçants indépendants ont respecté. Hein. Depuis le déconfinement, on pouvait pas rentrer dans nos boutiques sans être masqué, sans avoir nettoyé ses mains au gel à l'entrée, on faisait très attention avec la désinfection des vêtements. Enfin, chez les commerçants, le textile en tout cas, on a toujours été très, très regardant là-dessus et la seule chose qui va changer pour nous, c'est la jauge. Mais sinon, rien ne change, on était déjà extrêmement précautionneux.
Vous étiez à combien de personnes par boutique, dans la vôtre en même temps par exemple?
Oh ben moi, personnellement, j'ai une petite boutique, donc à 3-4 personnes
maximum.
Et puis bon, ben là, j'en aurai un peu moins. Mais bon, de toute façon, il n'y aura peut-être pas non plus... Enfin, les gens vont en tenir compte.
C'est mieux que rien, en tout cas pour vous. Est-ce que vous espérez la sauver, cette période capitale pour vous du mois de décembre, la période des courses de Noël?
Écoutez, franchement, je ne sais pas quoi en penser parce que fatalement, si on avait le droit de retourner en boutique et qu'il y ait du monde dans nos boutiques, on aurait une chance de le sauver. Si maintenant, de toute façon, on peut pas accueillir autant de personnes qu'il le faudrait, va quand même y avoir un décalage. J'en ai peur.
C'est ça. C'est-à-dire que vous pourrez retravailler, mais peut-être moins qu'avant, ce qui sera difficile alors que vous avez du retard à combler.
Oui, forcément. Parce que, alors... À moins que les gens jouent le jeu de faire la queue sur les trottoirs comme on les a vus faire devant les grandes surfaces ou devant les commerces de bouche, mais ça, je peux pas le dire. On verra. Oui, mais après, ça dépend aussi de la météo. C'est si peu des cordes, on est quand même moins enclin à faire la queue pour aller s'acheter quelque chose. Après, donc le commerce en ligne va évidemment tirer son épingle du jeu une fois de plus.
C'est logique, tout le e-commerce, effectivement. Philippe Bilger est avec nous. Vous avez des courses de Noël à rattraper, Philippe ?
Ah oui, certainement, mais Jean-Marie, j'ai une question très précise à vous demander. Ça n'est pas qu'elle me concerne particulièrement, mais qu'en est-il des coiffeurs, par exemple?
Bien, ça fait partie des services à domicile. C'est un commerce de services et ça fait partie des services aussi à domicile, c'est-à-dire qu'ils pourraient recommencer à ouvrir, a priori, sauf démenti présidentiel ou gouvernemental, à partir de ce samedi, 9h du matin.
Avec des jauges aussi strictes, Philippe, que celles qu'on a évoquées hier ou
Oui,
pas
tout à fait. C'est toujours une personne, un client par 8 mètres carrés. Et apparemment, c'est confirmé, ça a été négocié et les coiffeurs n'ont pas eu leur
D'accord,
mot à dire.
C'est ça. Ouais. Quelle demande d'ailleurs, peut-être une dernière question pour Bernadette Hirsch. Y a-t-il un seuil à partir duquel ça ne vaut même pas le coup de rouvrir, si j'ose dire? C'est-à-dire que vous rouvriez en perdant de l'argent parce que vous ne pourriez pas accueillir assez de clients en même temps. Jusqu'où pouvez-vous descendre, Bernadette ?
Moi, ça, c'est du cas par cas.
Oui.
C'est vraiment chaque boutique, en fonction de son emplacement, de sa surface, de son personnel.
De ses frais.
Oui, de ses frais, c'est du cas par cas.
Du cas par cas, effectivement, ce qui paraît logique. En tout cas, on vous
Après,
souhaite...
Après, peut-être que certaines boutiques mettront en place des rendez-vous individuels, ce qui fait que peut-être, comme les gens seront encore mieux accueillis et chouchoutés, le panier pourra monter, mais ça
va être difficile,
après.
Effectivement. Ouais, peut-être qu'on va prendre de on a pris beaucoup de nouvelles habitudes avec ces deux confinements. Peut-être prendra-t-on l'habitude de prendre rendez-vous chez son magasin de vêtements, justement,
par exemple,
pour pouvoir essayer, comme si on allait chez le coiffeur.
Ça limite quand même. Hein,
ça limite énormément,
bien sûr,
effectivement.
Bien sûr, ouais.
En tout cas, écoutez, on vous souhaite malgré tout la meilleure réouverture possible dès ce
Merci
samedi.
Beaucoup.
À partir de 9h, parce que je pense quand même que vous en aviez besoin. On espère aussi que vous pourrez rattraper le plus possible de ce mois de décembre, chère Bernadette Hirsch. Je rappelle que vous êtes gérante d'une boutique Mademoiselle H. Obuska, présidente de la Fédération Nationale de l'Habillement dans la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà les secteurs, en tout cas, qui ont été durement éprouvés, durement impactés par tous ces confinements. Il y a aussi un secteur, je le disais, Philippe Bilger, qui vous tient particulièrement à cœur, celui de la culture, les théâtres, les cinémas. Eux, c'est courant décembre qu'ils pourront savoir s'ils peuvent se permettre de rouvrir, en tout cas. Et beaucoup auront fermé probablement sous un an, Philippe Bilger.
Oui, là, il semble que le président ait été sensible non seulement à la revendication culturelle, mais à un discours qui comprenait mal, je dirais, les contraintes qui s'appliquaient encore alors que les protocoles sanitaires pouvaient être respectés. Mmh. Il est sûr que, et je crois que c'est pareil pour les messes, enfin, je veux dire, le gouvernement s'occupe un petit peu, enfin, de l'immatériel et pas seulement du matériel. Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
Oui.
Je peux pas m'empêcher, Jean-Marie, d'éprouver à la suite de notre restaurateur Michel Saran, je continue à avoir un peu de tristesse, voire de chagrin pour ces gens qui vont devoir attendre le 20 janvier sans toujours comprendre les règles de la contrainte qu'on leur impose.
Et le côté arbitraire, justement, c'est vrai que c'est assez difficile d'expliquer aux profanes que nous sommes, Philippe Bilger et Philippe Rossi et moi-même, eh bien pourquoi on risque davantage de s'infecter ou de se contaminer dans un cinéma ou au théâtre que dans un restaurant, par exemple. Et c'est encore plus difficile à accepter pour un restaurateur qui, lui, n'a pas le droit
de
rouvrir.
Il y a quand même des études qui ont été faites, et la dernière en date, c'était il y a quelques semaines au Canada, je crois, qui expliquaient vraiment que, effectivement, il y avait énormément de clusters qui se créaient à partir de clients qui ont été au restaurant. C'est prouvé, il y a eu plusieurs études là-dessus. Il n'y a pas eu d'études, Philippe, sur les cinémas et les salles de théâtre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut consoler nos restaurateurs, même s'ils ne nous écoutent pas et on les comprend, c'est qu'effectivement, on ne peut pas porter le masque en mangeant et on risque d'être contaminé plus que dans une salle de cinéma, hélas.
Absolument, la grande différence, c'est que dans le culturel, on peut ne pas parler, tandis que dans le restaurant, à un moment donné, il faut parler.
Oui, parce que sinon, effectivement, ce n'est pas le meilleur moment à passer dans un restaurant. Et en tout cas, c'est vrai que c'est assez triste pour le pays de la gastronomie qu'est la France, et que la France se targue d'être à raison d'ailleurs. Justement, en direct sur Sud Radio avec nous, Benoît Blanc, bonsoir à vous. Les nombreuses questions que nous nous posons, vous pourrez peut-être y répondre en partie. Médecin généraliste Vert Bergerac, vous êtes le vice-président du syndicat des médecins libéraux. Emmanuel Macron, c'est ce que disait Philippe Bilger, qui annonce un cap assez précis d'ailleurs, avec des objectifs à tenir en termes de contamination, de baisse du nombre de personnes, de patients dans les services de réanimation à l'hôpital. Est-ce que vous êtes rassuré ce soir ou pas du tout?
Alors ça, c'est une question, je dirais presque piège. Rassuré, je ne suis pas trop rassuré dans l'ensemble. Ce qui m'a rassuré dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est la non-obligation de la vaccination et le ciblage de cette vaccination sur les populations cibles,
oui,
en particulier les personnes âgées. Ça, ça m'a rassuré parce que je pense que nous devons absolument orienter tous nos efforts vers les populations vulnérables et peut-être laisser un peu plus libre les populations qui ne sont pas des populations cibles du virus.
Donc ça, c'est important, effectivement. Vous trouvez que le gouvernement, en tout cas sous l'impulsion du président de la République, devient un peu plus pragmatique qu'avant?
Je pense que le terrain remonte peut-être plus dans les salons dorés de l'Élysée, oui.
Vous pouvez aussi relever une autre chose très importante dans l'allocution du président de la République, c'est que il nous dit quand même le pic de cette deuxième vague est passé, bien qu'il faille rester prudent au moins jusqu'à plus de 15 jours après les fêtes de fin d'année qui risquent d'entraîner un rebond des contaminations. Est-ce que vous confirmez aussi que la situation tend à s'améliorer ?
Alors pour nous, la situation s'améliore, nous avons beaucoup moins de cas effectivement dans nos consultations, et ça sur tout notre territoire là du sud d'Ordogne, hein, on a créé un petit groupe WhatsApp qui nous permet d'avoir en temps réel la vision des choses, merci WhatsApp, c'est assez pratique, on voit moins de cas effectivement. Par contre, ce qu'on voit, et ce qui est assez nouveau, de plus en plus de personnes refusent le test.
Refuse le dépistage.
Le refus de dépistage, c'était quelque chose qui était tout à fait absent jusqu'à présent. C'est-à-dire quand on disait aux gens, écoutez madame, il faut faire le test, bien docteur, il y avait même ils y couraient, il n'y avait aucun souci. Et aujourd'hui, on a des gens qui vous disent, écoutez docteur, c'est bon, ça va, ça a assez duré, je reste chez moi une semaine et on n'en parle plus. Donc on a vraiment de plus en plus cette attitude. Enfin, moi, c'est ce que je vois dans mon activité quotidienne.
Pourquoi, juste qu'on comprenne bien Benoît Blanc, pourquoi il refuse de se faire tester?
Alors, si vous voulez, si on remet le... Bon, je vais parler de la Dordogne. Si on regarde un peu le contexte, on parle du bon sens paysan, du sens pragmatique. Sur la Dordogne, on a eu une trentaine de morts en 6 mois du coronavirus. Essentiellement des personnes effectivement très vulnérables. Pendant la même période, on a eu autour de 2500 morts, ce qui est à peu près le chiffre de mortalité en Dordogne en 6 mois. Toutes les autres maladies que vous pouvez imaginer, les accidents de la route, etc. Et donc les gens, si vous voulez, quand vous discutez avec eux, très peu ont eu dans leur famille des gens soit hospitalisés, en tout cas soit intubés en réanimation, soit morts. Donc, si vous voulez, au début, quand l'épidémie arrive, il y a la sidération, la peur de qu'est-ce qui va se passer, et ça va tuer ma mère, ma grand-mère, ma tante.
On fait attention parce qu'on a peur au début.
On a peur. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que, je parle pour la Dordogne, je ne veux pas comparer avec d'autres territoires, finalement il y a eu très peu de morts. Pour la Dordogne, la plupart des malades, ils ont eu une bronchite qui a duré quelques jours, certains plus, je ne le nie pas.
Bien sûr.
Certains ont eu comme des grosses grippes. Et donc, si vous voulez, au bout d'un moment, la population se dit, finalement, voilà. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien.
Mais vous décrivez en tout cas ce que vous avez vu vous-même, Benoît Blanc, sur le terrain. Ça soulève deux questions. Une à laquelle j'aimerais que vous répondiez même rapidement. Emmanuel Macron qui nous promet, en janvier, nous aurons enfin des dépistages qui donneront des résultats en 24 heures. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour avoir du matériel efficace ?
Alors ça, c'est une question. Alors à la décharge du gouvernement, c'est un peu compliqué de gérer un nouveau virus. La temporalité, si vous voulez, de l'économie et de la vie des gens n'est pas forcément la même que celle de la recherche scientifique. Hein. Donc ça, effectivement, il y a quand même un certain nombre de cahiers des charges dans la recherche qui fait que c'est un peu compliqué. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que les virus, la virologie, effectivement, tous les virus ne sont pas forcément faciles à dépister. Hein. Donc là, on est dans des vraiment dans des très très techniques, très scientifiques, et je pense que Si on avait pu avoir un test rapide
on l'aurait
et validé, on l'aurait eu. Ça, je
donc
crois
ça, c'est pas
de...
ça, vous ne le mettez pas, en tout cas, au débit du gouvernement ou
ça,
alors de l'administration.
Pas du tout.
Parlons de la vaccination, j'aimerais y revenir aussi, parce qu'Emmanuel Macron a promis, et vous vous en félicitez d'ailleurs, bien que le vaccin ne serait pas obligatoire, mais qu'en revanche, il serait distribué le plus massivement possible à tous ceux qui en auraient le plus besoin. Est-ce que vous avez confiance en la capacité de l'État à distribuer des vaccins à tous ceux qui en auront besoin, et rapidement?
Je pense que l'État peut arriver à faire ça, à condition de mobiliser les acteurs de premier recours, c'est-à-dire les médecins libéraux, les infirmières, tout le personnel effectivement de soins de premier recours, les pharmaciens, enfin ce qu'on fait déjà dans le cadre de la vaccination antigrippale. Voilà. Alors effectivement, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse arriver à avoir la même qualité d'approvisionnement, enfin une meilleure qualité d'approvisionnement que pour la grippe, puisque je vois que cette année nous sommes déjà en rupture de stock.
Pour le vaccin contre la grippe, effectivement.
Voilà, là aussi, les gouvernements dépendent aussi des lois du marché, de l'industrie. On pourrait accuser le gouvernement de mauvaise gestion si le gouvernement fabriquait les vaccins lui-même ou s'il était, comme autrefois, je dirais, quasiment garant des instituts qui fabriquaient les vaccins. Aujourd'hui, il y a
c'est vrai que c'est difficile.
Ah bah oui, c'est difficile.
C'est vrai que c'est très difficile. Et justement, j'aimerais revenir sur cet aspect particulier avec vous, Philippe Bilger, parce que ça m'a beaucoup interpellé dans ce qu'annonce Emmanuel Macron, qui est très prudent parce qu'il a compris manifestement que les Français sont de plus en plus défiants face au vaccin. Il promet qu'un collectif scientifique, un comité scientifique sera créé pour superviser la campagne de vaccination avec un collectif citoyen qui examinera la transparence de cette procédure. En quelques secondes, Philippe Bilger, qu'est-ce que ça vous inspire, ces précautions ?
À l'évidence, et aussi bien pour les initiatives que vous venez d'évoquer que pour le rôle du Parlement, j'ai l'impression qu'il a répondu aux critiques qui avaient été faites sur, je dirais, le monopole du pouvoir au sein du Conseil de défense. Il y a une volonté de rendre démocratique quelque chose qui apparaissait tout de même un peu trop solitaire et présidentiel.
Et là, il y répond en tout cas, d'après vous.
Il essaye en tout cas.
En tout cas, il essaye. J'aimerais vous remercier, Philippe Bilger, d'être intervenu fidèlement, comme toujours.
Oui, c'est un bonheur.
C'est toujours...
Les vraies voix parlent vrai, toujours.
Les vraies voix parlent vrai, tout à fait, sur Sud Radio. Merci à vous d'être intervenu également sur Sud Radio. Benoît Blanc, médecin généraliste à Bergerac et vice-président du syndicat des médecins libéraux. Merci Philippe Rossi également.
Merci, à demain.
Bon, le déconfinement, c'est pas pour tout de suite,
et
mais
non.
Ça commence en partie au moins à partir de samedi matin, 9h. Un peu plus de promenade, beaucoup plus de courses, même en faisant très attention. Deuxième étape, le 15 décembre, ça c'est pour les cinémas et les théâtres, et peut-être, fin du confinement complète à partir du 20 janvier, si les chiffres sont bons. Justement, comment vous le vivez vous-même qui nous écoutez sur Sud Radio? Est-ce que ça vous redonne ou pas le moral? Avez-vous besoin de vous confier, tiens, de sortir un petit peu, de parler? Sud Radio, écoutons-nous, c'est au 0826 300 300. C'est dans quelques instants avec Muriel Hermine sur Sud Radio qui vous attend et qui vous donne la parole.